Comment Dieu me pardonne-t-il? Alors en introduction, on pourrait se demander pourquoi on s'occupe d'un tel thème, pourquoi se pose-t-on une telle question, si l'interrogation qui nous occupe durant cette récollection consiste à savoir comment pardonner et comment se pardonner. Pourquoi parler de Dieu alors que, à première vue, s'il s'agit de pardonner ou se pardonner, il s'agit des êtres humains que nous sommes. Pour ceux qui cherchent des places, il en reste encore devant. C'est comme dans les églises, souvent des places devant. Pourquoi parler de Dieu, donc, alors qu'il est question de nous? Alors, on a déjà un peu à l'esprit la réponse à cette question. C'est parce que, et c'est un point essentiel hein, de la vision biblique de l'homme, hein, c'est parce que l'être humain est essentiellement image et ressemblance de Dieu. Ça veut dire que pour connaître la copie, il faut connaître l'original. Alors, on n'est pas que des copies au sens de clones ou de réalité comme ça, sans vie. Mais c'est sûr que si nous sommes image et ressemblance de Dieu, alors ça signifie qu'il faut remonter de l'image à celui dont l'image est l'image, c'est-à-dire à Dieu. Cela vaut pour tous les aspects de notre être, mais cela vaut en particulier pour le pardon, parce que s'il y a bien quelque chose de divin, et quelque chose qui soit originellement divin, c'est le pardon. Alors nous avons un témoignage de ça dans l'évangile hein, de saint Marc, au chapitre 2, c'est l'épisode de la guérison du paralytique. Arrivent des gens qui amènent à Jésus un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mes enfants, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Voilà. Il blasphème. Un blasphème, ce n'est pas juste qu'il dit quelque chose de faux. Il blasphème, ça veut dire qu'il dit quelque chose qui a un rapport avec Dieu. Et effectivement, parce qu'il a dit « tes péchés sont pardonnés », or, clairement, dans la vision biblique des choses, eh bien, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Or, clairement, pour ceux qui l'entourent, Jésus est d'abord un homme. Il est d'abord un homme. Effectivement, donc, pardonner est un privilège divin, d'où d'ailleurs l'enjeu hein, dans cet évangile. C'est la question de savoir, mais du coup, Jésus, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est Dieu? Parce que s'il pardonne, ça pose la question de savoir si, oui ou non, il est seulement homme ou s'il est aussi Dieu. D'où la phrase du Christ hein, qui enchaîne. Hein. Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé « tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire « lève-toi, prends ton brancard et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adresse au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Donc, effectivement, le résultat de son action, c'est de guérir un paralysé, mais l'enjeu, c'est pas le résultat. L'enjeu, c'est oui ou non, celui qui manifestement est un homme, est-il aussi plus qu'homme, c'est-à-dire Dieu? Parce qu'encore une fois, s'il dit pardonner les péchés, cela veut dire qu'il revendique quelque chose de divin. Voilà. Donc cette phrase, qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul, même si elle est dite par des personnes qui ne sont pas très bien intentionnées à l'égard de Jésus, cette phrase est vraie, mais elle demande quand même un correctif. Elle demande un correctif parce que ce pouvoir, cette capacité, dont Dieu a le secret et dont il est la source, hein, il ne veut pas en garder le monopole. Ça, c'est très fondamental. Ou plutôt, il gardera toujours le monopole de l'origine, parce que clairement, le pardon sera toujours d'origine divine, mais en revanche, ce qu'il souhaite, c'est partager l'exercice de ce pouvoir. Il souhaite diffuser cela, ne pas le garder pour lui seul, il souhaite le communiquer. Alors évidemment, le témoignage le plus clair que nous ayons de cela dans l'Évangile, c'est au chapitre 20 de l'Évangile de saint Jean. À la fin de l'Évangile, le soir de la résurrection, hein, vous savez, Jésus va rendre visite aux apôtres. Le soir venu, les portes étaient closes. Et Jésus vint, il était là au milieu d'eux, il dit « La paix avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté, les disciples furent remplis de joie. Jésus leur dit de nouveau « La paix avec vous ». avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Donc, clairement, que fait le Christ ? Ben, ce pouvoir qu'il a de remettre les péchés, encore une fois, il en est l'origine, la source, puisqu'il est Dieu, mais néanmoins, il souhaite le partager, il souhaite le communiquer. Il souhaite le communiquer. Ça n'est pas qu'il s'en dessaisisse, mais il souhaite le partager. Vous savez, il y a des choses qu'on partage et qu'on ne perd pas pour autant. Il donne, il habilite l'Église à travers les apôtres à ça. Dans le langage du management des entreprises et des organisations, on pourrait parler d'empowerment, c'est vraiment très moche en français, mais d'empouvoirment ou de capacitation. Voilà, on a une capacité, mais on souhaite que les autres aussi l'aient. Et par conséquent, ça veut dire que l'homme est lui aussi investi de ce pouvoir de pardonner, de cette capacité. Il peut le faire, mais comme un pouvoir dérivé. Voilà. D'où, quoi qu'il en soit, la nécessité de remonter à l'origine. Parce que, effectivement, c'est de là que l'homme peut pardonner et se pardonner. Ben, c'est parce que Dieu, à l'origine, le peut. Et parce que Dieu souhaite, encore une fois, ne pas garder pour lui seul ce qu'il a et ce qu'il aime. Il souhaite le partager. Dès lors, la question se pose, hein, comment Dieu s'y prend-il pour pardonner? Quelle est sa manière de s'y prendre? De quelle manière pardonne-t-il? Comment pardonne-t-il? Et encore une fois, on a intérêt à le savoir, parce que nous, encore une fois, si nous le faisons, c'est de manière dérivée à partir de la source. Donc, comment Dieu pardonne-t-il? Alors, et c'est sûr qu'il est impossible de répondre de manière exhaustive à cette question, et je ne retiendrai que quelles caractéristiques saillantes au nombre de 5. Pourquoi 5? Pourquoi pas? Voilà. Première caractéristique, Dieu pardonne en envoyant son Fils. C'est-à-dire que c'est sa première manière de faire. Comment pardonne-t-il? En envoyant son Fils. C'est une affirmation récurrente dans les Écritures, hein, dans le Nouveau Testament. Non seulement Dieu a le pouvoir de pardonner, il pardonne effectivement, mais, parce qu'on pourrait avoir un pouvoir sans l'exercer, mais lui, non seulement il a ce pouvoir, mais il l'exerce. Mais ultimement, eh bien, Dieu pardonne l'humanité par toute l'histoire du salut qui culmine dans le mystère du Fils qui s'est fait homme. C'est ce que nous entendons dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3. Hein. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, enfin, il ne l'a pas prêté, il l'a donné, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, ça ce sera à la fin des temps, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Ce qui fait dire à saint Paul, en Éphésiens 1,7, formule qui synthétise comme ça, qui ramasse ce mystère de la rémission des péchés dans le Christ, hein, en lui, je cite saint Paul, hein, par son sang, nous avons la rédemption, qui est un autre nom du salut. Hein. Mais bon, c'est des mots qu'on a de se réapproprier, parce qu'en fait, c'est des mots où on les entend un peu souvent, mais en fait, on ne sait plus du tout ce qu'ils veulent dire. Bon, donc, en lui, nous avons la rédemption, et saint Paul rajoute, c'est-à-dire le pardon de nos fautes. Littéralement, la rémission des fautes. Alors voilà le terme de rémission, voilà un terme qui est à peu près inconnu de tous, parce que quand on pense à rémission, ben on pense au fait d'avoir été malade et du coup de se remettre. Mais on le sait, hein, ça fait partie du lexique chrétien, du vocabulaire chrétien fondamental. Hein, dans le credo, hein, dans le symbole des apôtres, ça fait partie des objets de foi. C'est dans le symbole des apôtres, la formule la plus courte, là. À la fin, on dit qu'on croit en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. C'est-à-dire que, or, ça veut dire qu'on croit qu'il est possible de remettre les péchés, mais on croit surtout, en fait, en disant ça, on croit au Christ. En fait, c'est une autre manière de dire qu'on croit au Christ, puisque, encore une fois, c'est en lui, Éphésiens 1,7, par son sang, que nous avons la rémission des fautes, des péchés. En fait, Jésus-Christ, c'est le nom que porte, effectivement, la rémission des péchés. De même, quand le Christ dit ben, « je suis la résurrection et la vie », en fait, la résurrection, ce n'est pas une abstraction, en fait, c'est une personne. Ben, là, c'est pareil, la rémission des fautes, ce n'est pas simplement une abstraction, mais c'est quelqu'un. Dieu nous pardonne donc, mais il nous pardonne par un moyen, par un médium, si on veut, par un il se sert entre guillemets de quelque chose, et ce moyen, ce médium, c'est un médiateur, et ce médiateur, 1 Timothée 2,5, eh bien c'est le Christ. 1 Timothée 2,5, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus. C'est un médiateur, c'est-à-dire un moyen dont Dieu se sert pour nous apporter cette rémission des péchés. Saint Paul peut donc affirmer, hein, Éphésiens 4, 32, « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu nous a pardonnés dans le Christ. » Alors, tout est dit. Effectivement, on comprend que on ne peut pas se pardonner si nous n'avons pas nous-mêmes été pardonnés par celui qui détient cette capacité et qui le détient de manière originaire de nous pardonner, mais cela par et dans le Christ. Alors, du coup, ça permet de dire que réfléchir à la manière dont Dieu pardonne, eh bien, c'est réfléchir à, au mystère du Christ. Et je crois que quand on est chrétien, ça n'est jamais perdre son temps que d'approfondir le mystère du Christ. Donc premièrement, hein, il nous pardonne en envoyant son Fils. Deuxième caractéristique, hein, de ce pardon divin que je retiens, c'est qu'il pardonne sans attendre qu'on le lui demande, ou sans, je dirais, toujours attendre qu'on le lui demande. Certes, ce que Dieu fait, il le fait dans l'ensemble parce que nous avons besoin pour répondre à un besoin que nous avons, et pour répondre à un besoin non seulement que nous avons, mais que nous exprimons. Ce besoin de salut, l'homme l'exprime de plein de manières. Par exemple, nous commençons, hein, chacun, enfin l'Église commence chacun des offices qui rythment comme ça la journée de prière, la liturgie des heures, par cette très belle expression de demande d'aide, de salut, qui vient d'un psaume. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. C'est le psaume 69, les premiers versets. Et donc, au début de chaque prière de l'Église, l'homme exprime comme ça sa demande de salut. « Viens à mon aide », bah, on ne dirait pas ça si nous n'en avions pas besoin. Et donc, on demande à Dieu de venir, encore une fois, à notre secours. Ou alors à la messe, hein, à la messe, au début de chaque messe, nous chantons le « Kyrie eleison », qu'on traduit par « Seigneur, prends pitié, Seigneur, aie pitié ». Effectivement, « Kyrie eleison », Kyrie, c'est Seigneur. Et puis, eleison, c'est « enfin, prends-nous en pitié, pardonne-nous ». Et nous, dans ta miséricorde. Et donc, nous manifestons, nous exprimons, nous crions, même nous chantons ce besoin d'être pardonné. Mais il peut se faire que Dieu n'attende pas que nous lui demandions explicitement de nous pardonner. Il y a plusieurs exemples dans l'Évangile, hein. Il y a d'abord cet exemple que je vous ai cité, hein, celui de ce paralytique, de ce paralysé qui ne dit rien, il ne dit rien du tout dans le passage de l'Évangile. C'est très beau, hein. Saint Marc note que Jésus, ce n'est pas en voyant la foi du paralysé, mais c'est en voyant la foi de ceux qui ont fait tout un trajet assez acrobatique pour l'amener à lui, voyant leur foi. Donc ce n'est pas la foi du paralysé. Jésus ne se dit pas « Oh là, lui, il a foi dans le fait que je puisse pardonner ses péchés, donc... » Non, pas du tout, pas du tout. C'est voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mes enfants, tes péchés sont pardonnés », alors que le paralysé n'a rien demandé. Enfin, donc, il n'a rien formulé. Il n'a rien formulé. Il y a aussi cette très belle page, hein, de Jean 8 sur la femme adultère. Très beau exemple, hein, du Christ qui pardonne les péchés et où cette femme adultère ne demande rien de ce type. Les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu, disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ?» Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, on pourrait se dire, « Mais toi, est-ce que tu veux que je te pardonne tes péchés ?» Non. « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Encore une fois, il n'y a pas de demande explicite de pardon, et pourtant, elle est pardonnée. Et puis, un des derniers exemples, il y en aurait sûrement d'autres, c'est un exemple dans cette parabole dite du débiteur impitoyable, en Saint Matthieu, chapitre 18. Vous savez, cette histoire avec quelqu'un qui a des dettes et qui ne veut pas les remettre à un de ses congénères alors que le maître, lui, lui remet sa dette. Hein. Le royaume de cieux est comparable à un roi qui voulait laisser compte avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amenait quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Parce que, encore une fois, la rémission des péchés, le vocabulaire, c'est l'idée de la remise de dette. Voilà. Rémission, c'est remettre la dette. Ne pas tenir le compte de la dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Donc ça, c'est très beau, parce que ce que dit ce débiteur au maître, c'est pas « Remets-moi ma dette ». Non, il lui dit simplement « Prends patience. Prends patience et alors moi, je te rembourserai. » Du coup, le maître, hein, saisi de compassion, le maître le laissa partir et lui remit sa dette. Donc ça, c'est fou. Parce qu'encore une fois, le serviteur n'a pas demandé ça. Et il reçoit plus que ce qu'il a demandé. Il reçoit une remise de dette qu'il n'a peut-être même pas osé demander. Et c'est ce que nous avons prié récemment avec cette très belle prière du 27e dimanche du temps ordinaire. Vous savez, cette prière du début de la messe qu'on appelle la collecte et qui ensuite... Parfois, Dieu nous exauce, exauce des désirs qu'on n'a même pas osé avoir. Répands sur nous ta miséricorde. Alors en fait, c'est pas tellement répandre, parce que répandre, on a l'impression de pff, espèce de flaque comme ça, de mazout. Non, c'est pas. C'est verse sur nous ta miséricorde. C'est vraiment une effusion. Fais sur nous une effusion de ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que ce que nous nous ont demandé. Voilà. Donc là, c'est typiquement ça. Encore une fois, Dieu pardonne sans attendre qu'on en ait le désir, en tout cas, explicite et formulé. Il peut être très, très, très caché au recoin de notre cœur. Ben, ça suffit pour que Dieu le voie. Et parfois, encore une fois, on ne lui a même pas demandé de remettre notre dette. Et ben, on repart avec une remise de dette. Troisième point, troisième caractéristique que je formule comme une question, parce que c'est un point compliqué, c'est la question de savoir si la manière qu'a Dieu de pardonner, c'est de pardonner de manière inconditionnelle. Est-ce que Dieu pardonne de manière inconditionnel. Ou est-ce qu'il pose des conditions au pardon qu'il nous donne? Ça, c'est une question vertigineuse, parce qu'on se rend compte que si on répond oui, eh bien, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, le pardon de Dieu n'est pas comme ça gratuit et absolu. Ça voudrait dire qu'il est soumis à certaines conditions qu'il faudrait qu'on mette, nous. Alors, on sait bien qu'on ne peut pas franchement mettre des conditions. Alors, en un sens, oui, en un sens, non. Oui, le pardon de Dieu est inconditionnel au sens où saint Paul dit en Romains 5, 6, c'est un passage magnifique, hein, « Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. » C'est clair. « Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien, à la rigueur. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Donc ce qui est clair, c'est qu'en ce sens-là, le pardon de Dieu est inconditionnel. Et d'ailleurs, c'est le sens du pardon. Il a eu l'initiative, et si vous voulez, il n'a pas attendu de ne rien avoir à nous pardonner pour nous pardonner. Si vous voulez, il n'a pas attendu qu'on soit des gens clean ou des gens bien pour nous aimer. Non, non, c'est parce qu'il nous aime qu'on peut à la rigueur devenir un petit peu meilleur que nous ne sommes. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'aurait rien eu à pardonner si on était des gens bien. Et donc, ce qui est clair, c'est qu'il a eu l'initiative de cela, il est mort, il a donné sa vie pour des personnes qui, en soi, n'étaient pas déjà des saints. Mais d'un autre côté, il y a quand même la prière du Notre Père qui, je l'espère, toujours vous fait vous interroger parce que plusieurs fois, en tout cas assez régulièrement, quand on prie le Notre Père, eh bien, que demandons-nous, hein? Remets-nous nos dettes, hein? Matthieu 6, 2, hein? Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Le Christ commente, hein? Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Ça, c'est quand même... Ça nous reste quand même un peu en travers de la gorge, parce qu'on se dit, oula, ça veut dire que le pardon de Dieu est conditionné par une attitude de notre part consistant à pardonner aux autres. Voilà. Et toujours dans cette parabole du débiteur impitoyable, hein, cette parabole en Matthieu 18, où ce serviteur qui n'a pas fait avec un autre ce que le maître a fait avec lui, eh bien, quelle est la conclusion que le Christ en tire, hein? C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, hein? Et c'est-à-dire de pas de très bonne manière, hein? Si chacun de vous, mon frère, du fond du cœur, ouf, c'est pas juste ne pardonne pas comme ça, hein, du bout des lèvres, mais c'est pardonner déjà qu'au bout des lèvres, dans certaines circonstances, c'est quand même compliqué de dire pardon. Mais ensuite, là, c'est vraiment du fond du cœur. Bon, pas de pression, hein, pas de pression, parce que ça, c'est le Christ qui fait son œuvre en nous. Mais ce qui est sûr, c'est que ces passages de l'Évangile sont très clairs. Pareil, en Marc 11, 24, 25, hein, « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne. » Sous-entendu, bah, si vous ne le faites pas, ça va compromettre le fait que Dieu vous remette vos péchés. En tout cas, tous ceux qui pensent que pardon divin égale laxisme généralisé ou grand n'importe quoi, parce que finalement, bah, Dieu serait quelqu'un qui pardonne comme ça, sans considération des conséquences, et surtout qui ouvre la porte à un gigantesque n'importe quoi, où finalement le bien et le mal n'ont plus de sens, puisque tout compte fait, bah, on sait qu'on sera pardonné. Bah, en fait, là, ça trouve un peu sa limite, parce que ce qui est sûr, c'est que si Dieu nous pardonne, et on revient au départ, hein, c'est aussi pour qu'on soit un peu comme lui. En fait, même il nous pardonne, si nous sommes comme lui, il nous pardonne pour que nous devenions comme lui. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins une chose qu'il nous est demandé de faire comme une réponse au pardon divin, c'est de pardonner à notre tour. Donc ça veut dire que c'est pas un pardon, en tout cas, complètement inconscient de la part de Dieu ou irresponsable, parce que c'est un pardon qui appelle tout de même, de notre part, le fait de nous bouger. Hein. On l'a vu dans l'épisode de la femme adultère, hein. À la fin, c'est « moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Donc ça veut dire qu'il y a quand même le pardon, appel à un changement de vie. Quatrième caractéristique, hein, Dieu pardonne tout, c'est donc l'universalité du pardon. Alors Dieu pardonne tout, effectivement, tout simplement parce qu'il peut tout. En fait, il pardonne tout, parce qu'il peut tout pardonner. Mais pourquoi peut-il tout pardonner? Parce qu'il peut tout. Et il peut tout parce qu'il est tout puissant. C'est pour ça que vous aurez noté, hein, ça paraît un peu des formules comme ça, un peu ornementales, et auxquelles on ne fait pas vraiment attention, parce qu'elles nous passent dessus comme sur les plumes d'un canard, étant donné qu'on les entend très souvent. Mais au début de chaque prière de l'Église, très souvent, vous savez, on associe la toute-puissance à la miséricorde. On dit, Dieu éternel est tout-puissant, ou Dieu tout-puissant et plein d'amour, Dieu tout-puissant et miséricordieux. Ben oui, les deux vont ensemble, parce que la miséricorde est l'expression de sa toute-puissance. Il y a même une collecte de l'année liturgique du dimanche qui dit, Dieu, qui manifeste au plus haut point ta miséricorde, ta puissance, pardon, quand tu pardonnes et quand tu prends pitié. Donc c'est sûr que la manière qu'a Dieu d'être tout-puissant, c'est d'être tout-pardonnant, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de faire en sorte qu'aucun péché n'échappe à, non pas son emprise, parce que Dieu n'exerce pas d'emprise, mais en tout cas à son empire, c'est-à-dire au royaume de sa miséricorde. Sa miséricorde est sans limite. Je fais au passage une précision, c'est vrai que ce terme de toute puissance, c'est un terme qui parfois peut faire réagir, étant donné que souvent on a un sens psychologique de ce terme. Il ne s'agit pas de dire que le sens psychologique n'est pas légitime, mais c'est vrai que psychologiquement, quand on dit de quelqu'un qu'il est dans la toute puissance, ce n'est pas forcément très bon signe pour la personne en question. Donc clairement, quand on parle de la toute puissance de Dieu, on ne parle pas de ça. On parle simplement du fait qu'il est Dieu. Et donc s'il est Dieu, il peut tout. En tout cas, il peut tout ce qui a un sens, parce que ça n'aurait pas grand sens de dire que Dieu peut faire un cercle carré. En tout cas, il peut notamment pardonner et tout pardonner. Il n'y a pas de chose qu'il ne puisse pas pardonner. Son pardon s'étend à tout. Il est sans limite. Il s'applique à tous nos péchés. Par exemple, Romains 8, 31, 32, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? » C'est-à-dire, en fait, le terme « donner », c'est le même qui peut signifier aussi « pardonner ». D'ailleurs, en français, on le sait, c'est le même terme, puisque, vous le savez, hein, le pardon est au don, ce que le parfum, par exemple, est au fumet, c'est-à-dire que le parfum, c'est un fumet excellent, achevé, eh bien, le pardon, c'est un don parachevé. Et donc, c'est vrai que il nous a tout donné, il nous a tout pardonné, puisque son don ultime, c'est bien sûr son pardon. Colossiens 2,13, hein, « Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair, mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Pas juste certaines. C'est pas « il nous a pardonné auquel okay, les plus graves » ou « il nous a pardonné juste celles, par exemple, dont on a... » Non, non, il a vraiment pardonné toutes nos fautes. Et là aussi, hein, toujours dans l'Évangile, Luc 7, ce repas chez Simon avec cette femme, vous savez, qui a des manifestations comme ça de tendresse envers le Christ et qui lui lave les pieds avec une scène incroyable. Et Jésus, Luc 7, 44, dit à Simon, puisque c'est un certain Simon, a lieu ce repas, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds, elle les a mouillés de ses larmes et essuyé avec ses cheveux, tu ne m'as pas embrassé, elle depuis qu'elle est entrée n'a pas cessé d'embrasser mes pieds, etc, etc, etc. Voilà pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés. Alors en plus il en rajoute une couche parce que j'imagine que elle devait vouloir, bon, manifestement elle souhaitait pas être discrète parce que sinon elle aurait pas fait ce qu'elle a fait, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle voulait pas qu'on en rajoute. Là, le Christ dit, ces péchés, ces nombreux péchés, mais sous-entendu, c'est vraiment tous ces péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés, c'est-à-dire l'intégralité, l'universalité de tes péchés. Cinquième et dernière caractéristique, Dieu pardonne dans la joie et avec joie. De quelle manière il pardonne avec joie et dans la joie? C'est-à-dire qu'il ne lui suffit pas de pardonner, parce qu'on pourrait imaginer que Dieu pardonne, qu'il ait ce pouvoir de tout pardonner, mais parce qu'il le ferait un peu de guerre lasse vis-à-vis de l'humanité, ou de mauvaise grâce, à moitié en colère, ou parce qu'il serait un peu contraint et forcé. Il dirait, bon, si je ne le fais pas, de toute façon, ces pauvres humains, vraiment, ils ne vont pas s'en sortir. Il pourrait nous pardonner un peu consterné devant l'étendue de nos péchés, mais il n'en est rien. Il n'en est rien, et ça, nous le savons, hein, le passage de l'Évangile le plus caractéristique, c'est la parabole de Luc 15. Souvent, on pense à la parabole du fils prodigue, mais saint Luc précise qu'il y a une seule parabole. Il y a une seule parabole, c'est la drachme perdue, enfin, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu. Et en fait, souvent, dans ces paraboles, on est focalisé sur le fait que, Dieu pardonne, etc. Mais en fait, non, la parabole porte très spécifiquement sur la capacité qu'on a ou pas de se réjouir du pardon donné. Puisqu'encore une fois, quel est le début de la parabole, hein? Les publicains et les pécheurs venaient à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Entendu, mais c'est vraiment scandaleux de prendre un repas, c'est-à-dire un lieu de fête, avec des pécheurs. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et donc c'est pour ça que, constatant cela, Jésus dit cette parabole. Et cette parabole, c'est d'abord la brebis perdue, hein? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et donc, de retour, le berger dit « Réjouissez-vous avec moi ». Pareil pour la drachme perdue, hein. Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses copines « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce d'argent ». Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Et puis ensuite, la parabole du Père miséricordieux, qui culmine avec le banquet, la fête. Voilà. La pointe de la parole, c'est la fête. Et ce que le fils, aîné, ne supporte pas, c'est pas tellement que le Père ait pardonné, mais ce qu'il ne supporte pas, c'est la célébration par le Père du pardon, c'est-à-dire la joie du pardon. Et en réalité, ce qui est visé, c'est encore une fois le fait que ce que les pharisiens et les scribes n'arrivent pas à accepter, c'est que Dieu puisse se réjouir d'avoir que les pécheurs s'approchent de lui, que Dieu puisse se réjouir de pardonner. Et c'est pour ça que la phrase la plus incroyable, c'est celle qui se trouve dans les paraboles où il est dit, le berger par exemple qui dit « Mais réjouissez-vous avec moi », c'est-à-dire « Partagez ma joie ». Et donc, ça c'est le signe que, encore une fois, Dieu ne se contente pas de pardonner, mais qu'il pardonne avec joie et qu'il appelle à goûter cette joie. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est déjà immense pour nous de pardonner et de nous pardonner, mais ce qui est encore plus beau, c'est de goûter à cette joie divine qui accompagne le pardon. Donc voilà, Dieu nous pardonne en envoyant son Fils, il pardonne sans attendre toujours qu'on formule explicitement la demande de pardon. Le pardon de Dieu est inconditionnel, oui, et en un sens, non. Quatrièmement, Dieu pardonne tout, c'est l'universalité du pardon. Et puis Dieu pardonne dans la joie et avec joie. Eh bien, je vous souhaite une bonne suite de méditations.